Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un ouvrage de référence sur le sujet, une somme de plus de 700 pages qui, au-delà d'un état des lieux précis, rigoureux, scientifique, croise l'histoire, le droit civil et canonique, la psychologie, la psychopathologie, qui analyse les causes et les questions soulevées d'ordre éthique, théologique, ecclésial, mais aussi sociétal. C'est toute la richesse du livre de Marie-Jo Till, « L'Église catholique face aux abus sexuels », publié chez Bayard. Marie-Jo Till, qui est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes médecin et spécialiste d'éthique. Vous enseignez à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg, mais bien au-delà, hein, vous êtes la présidente du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Là, c'est pas du tout dans un cadre confessionnel,
non,
c'est cela ?
Non, pas du tout. C'est un centre interdisciplinaire d'éthique qui fait un master d'éthique, un doctorat en éthique, un HDR en éthique, non confessionnel, mais très interdisciplinaire.
Et vous êtes une catholique engagée, le pape François vous a nommé membre de l'Académie pontificale pour la vie.
Absolument.
Alors, au-delà de l'indignation, de l'effroi soulevé par les avalanches de révélations d'histoires sordides d'abus sexuels et d'abus de pouvoir, les deux étant dire souvent liés, de la part de clercs, qui au passage jette une ombre injuste sur l'ensemble du clergé, vous avez voulu, dans cette vaste étude, prendre cette question à bras-le-corps pour l'analyser dans ses moindres recoins, tant au niveau des causes que des conséquences sur les victimes. Mais lorsque l'on regarde votre biographie, en fait, vous n'avez pas du tout attendu la crise actuelle, encore moins même celle des années 2000, c'est le début, j'allais dire, de cette crise. Vous avez commencé avant, donc vous étiez au courant ?
Alors, j'ai eu effectivement à la fois l'opportunité de rencontrer d'abord des victimes et ensuite des abuseurs et des prêtres abuseurs, mais aussi des cas d'inceste, etc. On va dire dans les années 90, c'est surtout à partir du milieu des années 90. Et à partir de là, je me suis posé plein de questions. Et je me disais, mais comment comprendre? C'est pas possible. Pourquoi on abuse comme ça d'enfants? Enfin, je trouvais ça terrible. Et j'essayais de trouver de l'information. Mais je vous rappelle, à cette époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était très difficile. Moi, par exemple, au milieu des années 90, je n'étais pas au courant de toutes les affaires états-uniennes. Alors qu'elles faisaient... déjà l'actualité, oui. Mais oui, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 82, etc. Donc, on avait un petit peu un décalage. Alors, je me suis tournée vers la faculté, puisque je suis une universitaire à Nancy à l'époque, et j'ai essayé d'interroger. Alors, on m'a dit, les agressions sexuelles, oui, c'est vrai, ça donne des traumatismes. Mais je n'avais pas beaucoup d'informations. Et puis, en parlant avec Xavier Thévenot, en discutant avec d'autres théologiens, je me disais, mais quand même, on peut pas en rester là, c'est trop grave. Donc, j'ai essayé de trouver ce que j'ai pu. Et puis, j'ai essayé d'écrire un premier article que j'ai proposé à l'épiscopat français, qui a été publié dans les documents épiscopat, qui s'appelait « À propos de la pédophilie » en 1998. Et on va dire que c'est cet article qui a été immédiatement accepté par la conférence épiscopale et qui n'était pas un article de commande, qui a enclenché la prise de conscience. Lentement, les évêques ont mis en place une commission à cette époque. Et je me rappelle de façon très intéressante que dans cette commission, les évêques, ils n'en revenaient pas. Et d'une certaine manière, ils ne me croyaient pas vraiment. Et je sais par ailleurs, par d'autres collègues, qu'ils sont allés demander à d'autres collègues pour voir si vraiment je racontais pas d'histoire. Donc vous voyez, c'était un effet surprise extrêmement important. Après cela, les évêques ont monté une commission, on a essayé de travailler. Olivier Échappé était le canoniste, moi j'étais dans l'éthique, la médecine, etc. Et tous les deux, nous sommes allés à Lourdes en novembre 2000, et c'est là que les évêques français ont publié ce qu'ils ont appelé une déclaration, la déclaration de novembre 2000. Et à partir de là, on va dire que le processus s'est enclenché. Il y a eu au lendemain de cette rencontre la publication d'une brochure « Lutter contre les abus sexuels ». Et cette brochure a été diffusée à des milliers et des milliers d'exemplaires un petit peu partout pour assurer un travail de prévention. Et puis il y a eu bien sûr tout ce qui a suivi, beaucoup de rencontres. Je suis intervenue l'une ou l'autre fois, y compris dans les conférences monastiques, parce que finalement les monastères sont assez concernés aussi par le problème. Quand un évêque a un prêtre qui est à abuser ou qu'on soupçonne d'abus, souvent il doit le retirer du ministère, le mettre entre guillemets quelque part, et c'est souvent dans un monastère. Or, dans les monastères, se posent des problèmes. Si vous rajoutez quelqu'un qui est supposé ou qui est susceptible d'avoir commis des abus sur mineurs, eh bien, ça se gère pas si facilement à l'intérieur d'une communauté religieuse.
Alors, Marie Jautil, vous avez voulu commencer par un chapitre sur l'histoire.
Oui.
Pour rappeler que la question des abus sexuels, elle est vieille comme le monde.
Effectivement, dans la lettre de Diognette, hein, nous sommes au IIe siècle, nous avons déjà une mention sur les abus sur mineurs homosexuels. Alors, ce sont surtout à travers l'histoire au départ des mineurs, des ados, mais vraiment aussi des mineurs, mais on ne sait pas toujours l'âge parce que le statut de l'enfant était extrêmement précaire, qui ont été abusés. Alors, je crois que c'est important de comprendre que on se situe pas exactement dans la perspective de l'homosexualité grecque, de l'éphébophilie, c'est-à-dire de ces relations sexuelles avec l'éphèbe, c'est-à-dire l'adolescent, où déjà on condamnait, enfin, on a des choses extrêmement ambiguës et tendancieuses quand on les relit aujourd'hui, et on devine aussi qu'il y a eu déjà à cette époque-là un certain nombre d'abus. Dans le christianisme, ce qui est important à noter, c'est qu'au moment même où l'évangile prend de l'ampleur et l'évangile qui donne un statut à l'enfant, on a déjà cette réprobation des abus sur l'enfant. Après ça, nombre de conciles, conciles d'Ancyre, enfin à tous les siècles d'une certaine manière, vont condamner de façon très ferme les abus sur mineurs. Mais c'est pas suivi des faits. Le plus souvent, on a les textes qui condamnent, qui prononcent des punitions très claires. Le moine qui est enfermé, qui reçoit pas beaucoup à manger, qui est battu, qui est, enfin, tout ce que vous voulez. Et après, sa réintégration avec un ancien. Mais en fait, on ne sait pas du tout si ça a été vraiment suivi des faits. Et donc, on a ça à travers tous les siècles jusqu'au Moyen-Âge. Alors, il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, eh bien, les prêtres étaient encore mariés pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, voilà.
Oui, parce que c'est le concile du Latran qui vraiment la verrouille, la
oui.
question du célibat, donc au XIIIe siècle.
Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'il a verrouillé, et ça s'est répété, que ça va fonctionner. En fait, ça n'a jamais très bien fonctionné. Il faut bien comprendre cette affaire-là. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que même les évêques défendaient leurs prêtres, qui étaient mariés, qui avaient des enfants, parce que Rome avait dit « niette ». Et donc, on constatait que malgré tout, bah, il y en avait quand même. Les évêques disaient « bon, enfin bon, il vaut mieux ça que autre chose ». Et puis, finalement, on arrive au concile de Trente. Et là, on va créer donc des séminaires pour essayer de former les prêtres. Alors, on est dans une perspective réactionnelle. Et c'est ça, c'est jamais bon d'être dans le réactionnel. On est contre les protestants. Et donc, voilà, on réagit, on se dit, on va former les prêtres, on va créer des séminaires, on forme les prêtres. Et on arrive finalement à petit, alors le sacrement de confession, ça s'appelait pas encore de réconciliation, le pénitence, était un sacrement essentiel. C'est un sacrement essentiel parce que l'Église a toujours, c'est curieux cette affaire-là, a toujours misé sur l'éthique sexuelle et familiale, et en faisant assez souvent des péchés, en prononçant beaucoup d'interdits, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Et c'est vrai que dans la confession, bah, c'était une des questions majeures. Donc c'était une manière aussi pour l'Église de poser là son pouvoir sur la société.
Sur les âmes et les corps.
Sur les âmes et les corps, absolument. En ayant un pouvoir qui n'était pas négligeable, parce que je pense que le ciel en dépendait. On allait ou pas au ciel si on s'était confessé ou pas. Donc vous voyez, c'était pas rien, parce que finalement on jouait aussi sur la culpabilité. Et c'est des choses qui vont durer jusqu'à aujourd'hui, hein, l'éthique sexuelle et familiale, même avec les derniers papes, sauf le tout dernier, qui est dans une perspective de discernement, mais on était avec Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, dans une perspective universaliste, normative, très juridique, et donc c'était, on posait des interdits et transgresser, c'était vraiment des péchés très graves, voire de l'intrinsèquement mauvais. ce qui est une qualification que je n'approuve personnellement pas. Je préfère de l'injustifiable qui intègre la raison. Et je crois que c'est extrêmement important.
Marie Jotil, on poursuit avec vous. Encore quelques instants sur l'histoire parce qu'elle est extrêmement éclairante. À quel moment vraiment il va y avoir une prise de conscience que l'enfant est un statut, c'est une personne et qu'il faut le protéger?
Très, très tardivement. Moi, je dirais au milieu du XXe siècle, même si il y a eu des étapes. Hein, j'essaye d'en parler, de
la
les évoquer.
La fin du XVIIIe, par exemple.
Oui, par exemple, il y a eu dans l'Église la prise de conscience que, justement, encore la confession, à l'intérieur de la confession, le prêtre pouvait solliciter un pénitent à des actes sexuels ou des enfants de cœur, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le crime de sollicitation. Et c'est vrai que solliciter une faveur sexuelle.
Ça veut dire, en fait, à l'occasion
d'une
de la confession, on
voilà.
En profite pour aller plus loin, si je puis dire,
oui.
Et passer à tout à fait autre chose que la confession,
absolument.
À un acte sexuel.
Voilà. Et donc, l'Église prend très vite conscience de la gravité de la chose, parce qu'il y va de la sacralité, entre guillemets, du sacrement de pénitence. Et donc, c'est par le biais de la liturgie, au fond, pas par le biais des victimes, mais par le biais de la liturgie qu'il fallait préserver, sauver, parce que l'Église était engagée dans ces sacrements, que l'on a commencé à prendre conscience, mais de manière... On voit bien qu'il fallait dénoncer dans le mois qui suivait, enfin, même si c'était pas aussi... On ne sait pas très bien au final.
C'est-à-dire que la victime,
on utilisait.
Elle va un mois pour dénoncer, c'est
oui,
ça hein?
Absolument. Alors, c'est complètement impensable.
Un mois, oui.
Si je veux dire, quand on sait aujourd'hui que c'est 30, 40 ans et au-delà...
Pour arriver à parler.
Pour arriver à parler, je veux dire, et au fond, c'était... Je veux dire, on peut pas en tenir rigueur à l'Église de ce temps-là, parce qu'elle n'avait aucune conscience de ce que c'était. Elle se rendait pas du tout compte, et dans la société non plus.
C'était pareil.
Il faut bien comprendre, voilà, quand on met les deux en parallèle, comme j'ai essayé de le faire, on se rend compte que on n'a pas idée de ce que ça représente. On pensera très très longtemps que l'enfant, et surtout une fille qui a un certain âge ou qui a une certaine physionomie, hein, elle était consentante, et on le pense jusqu'au XXe siècle. Mais bon... Petit à petit, malgré tout, l'Église en prend conscience. Elle intègre à ce moment-là aussi, petit à petit, parce qu'au départ, c'était pas des choses secrètes. Il y avait des condamnations publiques de prêtres. Mais petit à petit, à partir du XVIIIe siècle, et le secret prend une place vraiment de plus en plus forte. Et le crime de sollicitation, crimen sollicitationis en latin, il va faire l'objet d'un texte, alors il est intégré dans le droit canon de 1917, dans Crimen Sollicitationis, le texte de 1922, et plus officiellement, donc de nouveau dans les années 60, avec un texte du même acabit, du même nom, renforcé par un autre texte au début des années 70. Je rentre pas tout à fait dans les détails.
Oui, mais vous allez nous dire effectivement que dit ce texte quand même.
Ce texte, c'est ce qu'on appelle le texte qui fonde le secret pontifical. Le secret pontifical, ça veut dire que tous ceux qui sont impliqués dans un certain nombre de secrets, et Secretum Continuere en 72 ou 73, c'est dans ces eaux-là, va donner des rubriques très précises, dont les abus sexuels sur mineurs. Et dans ces cas-là, il ne fallait chacun au moment du jugement d'un certain nombre de cas,
donc
de prêtres,
canonique, à l'intérieur de l'Église, donc,
à l'intérieur de l'Église, eh bien personne, absolument personne, même pas les témoins, n'avait le droit de parler.
Sinon excommunication.
Ouais. Voilà. Ouais. Et ça va durer donc jusqu'à l'an 2000-2001.
2001.
Oui, absolument. Et le secret pontifical aujourd'hui, il a été un peu allégé. Mais il n'est pas levé. C'est pour ça que la commission des mineurs a demandé la levée du secret pontifical sur ces questions-là. Un certain nombre d'évêques, le cardinal Marx, par exemple.
Ben, l'autre jour encore, en février dernier, à Rome, lors du sommet.
Voilà, absolument.
Sur la protection des mineurs.
C'est un peu ridicule de ne pas donner les arguments quand finalement tout le monde sait, et en particulier quand il y a eu un jugement aussi au niveau national. Hein. Vous imaginez, en France, on a un jugement, d'un évêque, d'un prêtre, etc. On a les arguments, puisque les arguments sont rendus publics. Pourquoi dans l'Église, on n'aurait pas les arguments publics? Et c'est très important que tout le monde sache où on en est.
Donc c'est pourquoi, bon, là on en parlera plus tard, qu'effectivement, le fait que ces cas-là aient été traités uniquement dans le cas, dans un premier temps, plus aujourd'hui en France, en tous les cas, et en Europe, et étaient traités dans le cadre de la justice canonique, eh bien effectivement, le secret était totalement gardé.
Au départ, oui, absolument.
On lave le linge sale en famille.
On lave le linge sale en famille. C'est pas étonnant, vous voyez, qu'on en arrive à ces choses-là aujourd'hui. Alors se rajoutent d'autres choses hein, qui ont été discutées dans les pays, dans les secrets spirituels. Le secret, je parle de secret de confession, bon, ok, c'est une chose. Mais le secret d'un accompagnement spirituel, est-ce qu'il est inclus, est-ce qu'il n'est pas inclus? Alors, on fait le lien dans les pays, le nôtre en particulier, avec le secret professionnel. Mais le secret professionnel des médecins, il reste ambigu. Catherine Bonnier l'a bien dit. C'est assez intéressant. Au fond, il n'y a que les médecins fonctionnaires qui sont obligés réellement de signaler. Tous les médecins qui sont
en cabinet,
ben, d'une certaine manière, ils jugent si c'est important de signaler ou si c'est pas important. Mais on les oblige pas absolument. Bien sûr, moi je suis médecin, on les incite, etc. On dit, vous ne serez pas condamné, et ben voilà. Mais on a la même chose d'ailleurs pour maintenant le secret de confession. Parce qu'un nombre de pays, par exemple l'Irlande dit que le secret de confession n'est pas un secret absolu, que quand il y a un abus de mineur, il faut le signaler. Est-ce que, alors j'ai interrogé mes collègues en Irlande pour savoir ce qu'il en est. Alors ils m'ont répondu, en gros je l'ai mis en note de bas de page, j'ai dit voilà la loi, mais au final on n'est pas sûr du tout qu'il y aurait un procès. Donc un certain nombre de pays, par exemple en Australie aussi, dans les recommandations, suite à cette commission royale,
oui, qui a mis effectivement en lumière.
Voilà, tous les cas
voilà, énormes.
Énorme.
Immense. 7% du clergé, voire parfois 15%, c'est
oui,
ça?
Oui, hein, absolument. Ou encore au Chili. Donc on a différents pays qui tentent actuellement de lever le secret de confession. Vous voyez? En France, je questionne. Bien sûr, l'épiscopat partout, le magistère partout, dit toujours que le secret de confession est absolument inviolable. Et je crois qu'il y a moyen de traiter parce que le prêtre peut ne pas donner l'absolution. Donc, vous voyez, c'est extrêmement clair malgré tout. Quand on peut préserver le secret de confession, mais on ne donne pas l'absolution. On dit ça ne relève pas de la confession. Donc ça, il faut aller, pour demander le pardon de Dieu, d'abord aller se réconcilier, donc signaler ce qui s'est passé.
Ah oui, c'est ça. Donc la personne, en fait, viendrait pour recevoir l'absolution.
Oui.
Elle ne la reçoit pas. Et à ce moment-là, le prêtre...
C'était le cas de l'abbé Bisset à l'époque.
C'est ça. Le prêtre, à ce moment-là, doit...
Le prêtre doit...
Doit.
Je crois qu'on en est à ce niveau-là, même si c'est pas un doit absolu, parce que c'est pas marqué dans le droit canon. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu ambiguës.
Encore ambiguës, oui.
Et qui sont encore ambiguës. Donc, le prêtre, normalement, aujourd'hui, doit, en tout cas, les consignes sont très claires, ne pas donner l'absolution, etc. Ceci étant, il y a très peu de personnes qui viennent se confesser. À part l'abbé Bisset, j'ai interrogé beaucoup de monde, y compris dans les lieux de pèlerinage. Personne n'a jamais...
Ça ne se présente pas.
Non. En fait, ils vont pas se confesser. Mais deuxièmement, il faut savoir que celui qui dénoncerait,
hein, Qui ferait un signalement.
Oui, en France, on parle de signalement. C'est marrant parce qu'en Suisse, on parle de dénonciation et dans plein de pays, on parle de dénonciation. Mais en France, on parle de signalement. Vous avez parfaitement raison.
C'est plus soft, si je puis dire.
Oui, alors, si je suis prêtre et que je signale malgré tout quelqu'un qui serait venu, je mets beaucoup de si, même si la situation est un peu improbable. Du point de vue juridique, en France, cette personne ne pourrait pas être poursuivie. Du point de vue de l'Église, évidemment, il y a une excommunication latae sententiae, c'est-à-dire communication immédiate. Bon, mais la communication immédiate, elle pourrait aussi quelque part, si on s'amende, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même aussi, il y a une certaine précarité de toutes ces choses-là. Je ne vais pas induire en erreur, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir à cette question.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Marie-Jo Thiel pour son livre « L'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs » et c'est publié chez Bayard. On continue sur cette mise en perspective, Marie-Jo Thiel, dans l'histoire de la question des abus sexuels. Vous évoquez, effectivement, c'est tout à fait intéressant, cette période des années 68-70 où, manifestement, on n'a pas du tout conscience des conséquences de pratiques sexuelles sur mineurs. Il y a une sorte de climat de libéralisation sexuelle qui jette une sorte de voile sur certaines conséquences.
Oui, il y a des confusions extrêmement importantes avec, je ne vais pas nommer des gens, mais ils sont quand même connus, enfin je les ai nommés.
Daniel Cohn-Bendit qui dira, 25 ans plus tard, on ne savait pas, on ne mesurait pas.
Oui, alors c'est vrai que c'est un climat d'émancipation considérable et ça va durer quand même jusqu'à la fin des années 70. Hein. Alors petit à petit, ça va être levé, mais alors c'est surtout aussi les cas d'inceste qui sont extrêmement fréquents, des parents, des pères qui pensent initier leur fille, etc. Enfin, c'est absolument incroyable quand on lit ça aujourd'hui. Et là, on se rend compte qu'on a changé d'époque.
Complètement.
Complètement. Même avec un certain nombre d'émissions télévisées, des condamnations juridiques, parce que l'inceste n'était pas condamnable. Et donc, évidemment, dans la société, l'inceste n'étant pas condamnable, on faisait une confusion entre l'homosexualité, mais aussi la pédophilie au sens propre du terme, c'est-à-dire l'abus de l'enfant prépubère, au sens pathologique du terme. Ce sont des pratiques dont on voyait absolument pas le problème. On disait c'était pour initier, c'était des câlins, ça allait très très loin.
Et oui, il y a même une association, alors ça j'ai relu deux fois ce passage, une association pour la pédophilie, c'est ça ?
Oui, oui.
Qui avait eu le soutien du journal Libération.
Oui, absolument. Mais et Libération a eu beaucoup de mal, parce que même Michel Foucault était impliqué dans toutes ces choses-là, au niveau homosexualité. Parce qu'il y avait une confusion incroyable aussi entre pédophilie et homosexualité. Donc vous voyez, c'est pas étonnant que quelque part on en soit encore parfois là aujourd'hui, même si c'est pour d'autres raisons. Mais je crois que au départ, l'homosexualité ne se distinguait pas de la pédophilie. Il faut vraiment les distinguer, je le dis à tous les auditeurs. Mais au départ, dans cette période très étrange des années 60, à la fin des années 60, 70, comme vous venez de le rappeler, on a vraiment très curieusement un mélange entre les deux. Et l'homosexualité, le mouvement homosexuel a du mal à s'émanciper de la pédophilie. C'est dans les années 80, la fin des années 80, donc vous voyez, c'est pas si loin que ça. Où vraiment l'homosexualité, les mouvements homosexuels se distinguent radicalement. Radicalement, plus ou moins radicalement. Et puis ensuite, sérieusement, aujourd'hui, il y a plus de confusion possible. Même s'il faut bien comprendre aussi, je rajoute immédiatement que ce qui est intéressant à observer, c'est que les victimes dans l'Église sont plus souvent des petits garçons que des petites filles. Alors que dans la société, c'est l'inverse.
C'est ça, 85% des abus sexuels dans la société, effectivement, c'est dans le cadre de l'hétérosexualité.
Oui, absolument.
Alors que dans l'Église, c'est la majorité,
l'inverse.
Alors l'explication,
Marie-Josée, l'explication, elle est complexe. C'est pas systématiquement de l'homosexualité. Je crois que ça aussi, il faut le dire. C'est une opportunité, c'est de l'opportunisme. Des prêtres qui sont à côté de petits garçons, c'est facile d'utiliser, entre guillemets, des petits garçons, parce qu'ils sont là, c'est les camps scouts, ils sont genrés, donc c'est des garçons, et donc c'est une solution de facilité. Mais pour un certain nombre d'entre eux, parce que l'homosexualité dans l'Église, elle est quand même importante, beaucoup plus importante que dans la société, et donc pour certains d'entre eux, oui, de fait, c'est une liaison homosexuelle véridique pour raison d'homosexualité.
Là, voilà. C'est le livre, vous rejoignez le livre de Frédéric Martel, qui a été notre invité récemment, Sodoma.
Oui, absolument. C'est un coup de pied dans la fourmilière et pour une grande part, il a raison. Il y a effectivement, alors le Vatican est en plus une espèce de concentré, ce qui est pas tout à fait normal, entre guillemets, mais il faut bien se rendre à l'évidence que c'est ça la réalité, quoi. Hein. Voilà. Mais dans l'Église aussi, il y a un certain nombre d'homosexuels, plus d'homosexuels prêtres qu'il y en a dans la société. Et dans certains pays, aux États-Unis par exemple, c'est encore beaucoup, beaucoup plus marqué que chez nous en France.
Oui, on l'a vu avec effectivement l'affaire McCarrick.
McCarrick, absolument.
L'ancien archevêque donc, de Washington, mais qui a pu tomber, si je puis dire, et être réduit à l'état laïque, en l'occurrence, c'est pour des abus sur mineurs.
Alors, sur mineurs et sur adultes, parce qu'il y avait aussi des séminaristes, etc. Mais en fait, ce qui est agaçant, entre guillemets, ou révoltant, il faut le dire comme ça plutôt, c'est que le McCarrick prêtre des années 70 abusait déjà. C'était l'ongle tête qui emmenait dans sa maison balnéaire, qui avait 4 lits mais emmenait 5 personnes. Bon, on en rit un peu parce qu'on en rit jaune, mais bon, voilà.
Et il a eu ce parcours dans l'Église.
Incroyable.
Incroyable. Archevêque de Washington,
oui,
quand même.
Absolument, cardinal.
Cardinal, cardinal.
Oui. En mai, il a quand même perdu sa pauvre cardinalice et il a été réduit à l'état, entre guillemets, il a perdu sa condition cléricale. Mais oui. Chez nous, nous disons souvent, oui, laïcisé ou réduit à l'état laïque. Mais c'est pas très beau. Et c'est surtout un affront pour les laïcs que nous sommes.
Le cardinal Pell, numéro 3 du Vatican, l'ex-numéro 3 du Vatican.
Oui, oui, absolument. C'est quand même... je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi des hommes de cette notoriété, qui sont intelligents, je n'en doute pas, même si je ne les connais pas personnellement.
C'est une schizophrénie pour vous, une sorte de... Alors, personnage coupé en deux vies.
Je suis pas complètement sûre pour ces deux personnes-là. Bon, la question du clivage dans la perversité est quand même un peu différente que ce qu'il donne à montrer. Hein. L'abbé Bisset l'était probablement de façon beaucoup plus sûre, mais bon, après ça, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les abus, il y a abus et abus. Et entre la névrose, la perversité, les psychopathes, etc., on a tous les intermédiaires, vous voyez. Mais c'est sûr que pour la perversité, et ça c'était le problème des évêques aussi en l'an 2000, ce qui les surprenait, c'est que ils avaient des prêtres qui avaient commis des abus, ils leur disaient « mais tu vas pas recommencer », l'autre disait « mais non, je ne vais pas recommencer », etc. Et ils les croyaient. C'était une naïveté, voilà.
Mais c'est le cardinal Barbarin avec le père Prena, quand ils se rencontrent.
Alors ça, c'est encore un peu autre chose, non. Je pense, parce que c'est...
Il avait dit « non, j'ai fini, je n'ai pas terminé ».
Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais lui n'a pas couvert directement. Hein, donc c'est encore une situation un peu différente.
Oui, puisqu'il est arrivé dans son diocèse, effectivement, après, normal, là.
Voilà, de Courtrai avait à gérer cette affaire-là et il aurait dû gérer beaucoup plus correctement. Et c'est vrai qu'il avait appris de Courtrai aussi entre-temps et il est mort en n'ayant pas compris et assumé jusqu'au bout cette situation.
Vous estimez que cette condamnation à 6 mois avec sursis du cardinal Barbarin est injuste? Au contraire, c'est un signal fort envoyé aux évêques du monde entier, de France, mais du monde entier.
Alors, je fais confiance à la justice, hein, parce que les peines, moi, je ne peux pas les évaluer, je ne suis pas une juriste, mais quelque part, effectivement, de ne pas... la condamnation en elle-même est un signal. Et je crois que c'est effectivement un signal pour les évêques du monde entier, en leur disant, attention, les cas anciens, vous devez aussi en prendre, faire attention à ces cas-là, parce que c'est un aspect qu'ils avaient complètement oublié. Les évêques, d'abord, ils prennent conscience du problème de ne pas déplacer les prêtres. Mais leur idée première, c'est protéger l'Église, protéger les prêtres. Deuxième point, très longtemps après, 15 ans après, c'est les victimes. Ah, voilà, là, ils découvrent les victimes. Vous voyez, je crois qu'il y avait vraiment un pas. Et là, avec le cardinal Barbarin, ce qu'on commence à comprendre, c'est pas, il n'y a pas que les prêtres actuels, il y a aussi les coupables qui ont été condamnés, qui sont à tout moment capables de récidiver. Donc, c'est pas qu'il faille ne pas les mettre quelque part, mais il faut les mettre loin des enfants, il faut veiller à leur situation. Bon, ils perdent l'état clérical, c'est encore autre chose. Mais c'est un peu ambigu aussi, d'une certaine manière. C'est bon, écoutez, vous perdez l'état clérical, et puis maintenant vous allez dans la société, vous faites ce que vous voulez, nous on s'en fout, quoi.
Oui.
Vous voyez, c'est pas satisfaisant non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'ils deviennent aussi?
Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent?
On peut pas non plus, ils peuvent pas dormir sous les ponts non plus. Enfin, c'est compliqué aussi.
C'est une question très compliquée. Je crois qu'il n'y a pas la solution. C'est pas simple. En même temps, bon, c'est une sanction dans l'Église, faut le savoir. Ça fait partie des dérives qu'ils doivent assumer. Et voilà.
Est-ce que ça aurait été mieux, précisément, Marie Jotil, qu'ils l'acceptent, en fait? Qu'ils disent, voilà, bon, moi, je me sens pas, il le dit, hein, je me sens pas coupable, j'ai fait des erreurs, mais je me sens pas coupable. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'ils l'acceptent?
Ouais, alors moi, j'ai pas assisté au procès. J'avais l'impression qu'il avait dit qu'il avait accepté un certain nombre de fautes, mais je peux pas vous dire exactement lesquelles parce que j'ai pas lu le compte-rendu du jugement.
Mais sur le message.
Alors sur le message envoyé.
Et que le pape accepte sa démission aussi.
Le pape est dans une autre situation encore. Je peux pas lui donner tort parce que le pape, au final, il attend la condamnation définitive.
En appel, oui.
Voilà. Et je veux dire, n'importe quel citoyen français a le droit à l'appel. Bon,
c'est ce qu'a dit Barbarin.
Parce que finalement, quand il y a eu le jugement au mois de janvier, il n'y a pas eu de peine demandée. Donc, on est malgré tout dans une situation, vous voyez, ambiguë. est-ce que la peine est juste ou pas? Les uns disent les mêmes, enfin, c'est pas exactement les mêmes juristes, mais c'est quand même la même justice française.
50-50, certains disent c'est mérité, voilà, d'autres pas, oui.
Voilà. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je sais pas dans le cas présent. Bon, moi, je me dis que de toute façon, une condamnation est un signe et que ça doit interpeller.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Marie Jottiel, sur cette mise en perspective qui est aussi l'objet de votre livre L'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, poursuivons avec celles et ceux qui ont contribué à cette conscientisation de la question des abus sexuels et de leur effet dévastateur sur la vie de ceux qui les ont subis. Les mouvements féministes ont joué un grand rôle.
Oui.
Les femmes étant finalement un peu avec les enfants dans la société à une époque, ceux qui étaient les plus fragiles.
Mmh. Je crois que c'est un point extrêmement intéressant et je vais vous dire, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui. Parce que ce mouvement-là n'est pas terminé. Au fond, on est dans une espèce de double mouvement où c'est une fois on essaye de voir les enfants, on se dit mais c'est pas possible, hein. Et puis ensuite c'est la femme, mais c'est pas possible qu'elle soit opprimée comme ça. Les deux se révoltent. Il y a une participation citoyenne extrêmement importante qui se met en place. Les femmes se séparent aussi des mouvements homosexuels, hein. Au départ, les mouvements féministes, je veux dire, ça n'a pas été si facile que ça. Et puis il y a ce mouvement, le MeToo. Je trouve ça extrêmement intéressant, par-delà les détails, etc. Parce que le MeToo, c'est cette oppression des femmes qui n'ont pas droit à la parole, et puis ensuite de nouveau des enfants. Et ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que le pape François, en 2010, dans le texte « Comme une mère aimante ».
C'est ça, c'était un motu proprio.
Un motu proprio associe les enfants avec les personnes vulnérables et incapables. Alors, c'est pas que la femme est vulnérable et incapable, mais certaines le sont. Oui, dans notre société, si vous avez vu le film de Arte sur les religieuses abusées,
c'est terrible,
c'est exactement ça. Mais aussi les personnes handicapées. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant d'associer, parce que c'est le même abus de pouvoir. Le pape François a tout à fait raison quand il parle d'abus systémiques en disant abus de pouvoir, abus sexuel, abus de conscience.
Tout
est lié. Les évêques, et ça, c'est quand même la première fois qu'on a un diagnostic à ce point-là grave et systémique, les évêques ont couvert, c'est presque, ils ont quand même pas commis d'abus sexuels eux-mêmes, mais c'est presque comme s'ils les avaient commis eux-mêmes, parce que c'est intolérable de les avoir cachés, occultés, d'avoir tout fait. Enfin, le rapport de Pennsylvanie est épouvantable.
Donc, combien de milliers d'enfants?
Mais ça fait, je veux dire, c'est là, je crois que c'était 1200 entre, enfin, je veux dire, bon, on les a de toute façon pas tous, mais voilà, on tourne toujours autour de 1000, 2000, enfin, c'est depuis l'Irlande, hein. Alors, vous me direz, c'est des grandes contrées, c'est sur 40, 50, 60 ans. Ok, d'accord, mais c'est absolument insupportable.
Oui, des vies dévastées après.
Oui. Donc ça, je crois qu'on a vraiment, les femmes ont joué un rôle important par rapport aux enfants et les enfants, quelque part, bénéficient du mouvement des femmes pour la dénonciation de l'inceste, pour les abus sur mineurs, etc.
L'apport de la psychologie aussi, évidemment, et de la psychanalyse fondamentale, même si, dans votre livre, vous soulignez que...
C'était pas évident.
Ferenczi a davantage vu que Freud.
Absolument.
Cette question-là. Quelques mots là-dessus.
Quelques mots, oui, parce que après Freud, qui a joué un rôle important, mais Freud n'était pas au clair par rapport à cette question des abus. Quel est le rôle des abus? Donc, il observe et va pas jusqu'au bout de son observation.
Oui, alors l'observation, il faut quand même le rappeler, c'est quand il va à la morgue à Paris,
oui,
dans les
absolument.
Années, c'est en 1886,
90, enfin oui. C'est la fin du 19e siècle.
Et c'est voilà. Terrible, il voit beaucoup d'enfants morts et des petites filles
absolument.
Violées et tuées
violées,
après.
Voilà, et Ferenczi aussi. Mais Ferenczi a été lui-même victime d'abus dans sa jeunesse. Et c'est peut-être ça la différence, vous voyez? Donc il a une sensibilité, parce que Freud se dit, bon...
Qu'est-ce qu'il n'a pas vu, Freud? Et qu'est-ce que Ferenczi a vu?
Freud pense que, c'est d'abord, il pense que l'agression, c'est des faits réels. Et dans un deuxième temps, il comprend que l'agression a pu être vécu sous le mode du fantasme, donc sur le mode fantasmatique. Et ça, il l'a de ses entretiens, en étant très sensible à la question de la femme hystérique, etc., puisqu'à l'époque, l'hystérie, Charcot, etc., c'est la période.
Il appliquait cette grille de lecture-là.
Oui, absolument. Et Ferenczi, alors ils étaient très proches au départ et puis bon, ils se sont un peu voilà accrochés. Mais Ferenczi, c'est dommage, est mort prématurément, probablement parce que il a été victime lui-même d'abus. Il se rend compte que c'est vraiment les adultes qui lui disent des choses extrêmement précises et qui l'entendent dans les entretiens. C'est-à-dire, c'est « j'ai abusé de mon enfant ». J'ai abusé de telle personne. Donc c'est des adultes qui disent voilà, j'ai abusé de. Et donc ça change complètement la perspective. Vous voyez, c'est pas simplement des enfants devenus adultes qui racontent leur traumatisme sur le mode fantasmatique. Ferenczi dit aussi qu'il entend des adultes qui racontent combien ils ont abusé. Et ça, à ce moment-là, Ferenczi fait le lien parce que lui observe aussi à la morgue les décès, les traumatismes qui peuvent être terribles. Hein. Parce que c'est pas si évident de faire le diagnostic. Hein. Je crois qu'il faut jamais oublier sur des enfants victimes, parce que souvent, quand un prêtre a abusé ou quelqu'un d'autre a abusé, un instit a abusé d'un enfant, je veux dire, à moins d'avoir été extrêmement violent et d'avoir violé au sens propre du terme, hein, donc avec intrusion du sexe ou de quelque chose d'autre, là on peut avoir des lésions physiques, mais sinon on n'a pas de lésions physiques. Et les lésions psychologiques au départ, ben elles se traduisent pas de façon aussi immédiate. Il y a de l'énurésie, de manque de sommeil, agitation, angoisse, tentative de suicide, encoprésie, enfin tout ce que vous voulez.
Anorexie,
boulimie, tous les troubles à ce niveau-là. Et à l'école, chute des résultats scolaires, enfin un enfant qui se lave tout le temps. Enfin, vous voyez, c'est une multiplicité de signes qui disent d'une certaine manière une certaine fuite, et le terme fuir est assez intéressant ici, qui font fuir, me permettent de fuir, l'encoprésie c'est un peu ça, hein, qui permettent de faire le diagnostic. Mais il faut vraiment les suivre absolument, parce que pour certains enfants traumatisés, il s'agit de traumatisme, état de stress aigu, qui a des lésions, y compris au niveau du cerveau, au niveau de la cingula, au niveau du cerveau, de l'amygdale, etc., qui sont donc extrêmement graves.
Alors précisément, la question de la prescription, elle est de 30 ans en France, c'est-à-dire oui. À partir de la majorité. Donc à 48 ans, après c'est fini. Est-ce que selon vous, ça n'est pas indispensable de lever la prescription en matière de violence sexuelle ?
C'est un point qui est extrêmement discuté. J'en ai discuté avec les Suisses qui n'ont pas de prescription. Hein. Chez nous en France, on n'a pas tort non plus de dire, mais c'est vrai que ça se discute. Hein. Moi, j'avoue que le problème est peut-être ailleurs. Le problème, c'est que après 20 ans, 30 ans, se rappeler de tous les détails, sauf vraiment cas exceptionnel, ça va pas du tout de soi. Donc, en l'absence de preuves, l'autre ne sera pas condamné. Et ça, même quand c'est des enfants parfois, il faut bien comprendre que devant les instances juridiques, les coupables ne sont pas toujours condamnés parce qu'il y a absence de preuves. Hein. Puis on a eu quelques cas aussi où même un enfant de 11 ans a été considéré, enfin deux enfants de 11 ans en France ont été considérés comme consentants. Donc c'est ahurissant, enfin, cette loi Schiappa l'été dernier, ça m'a heurté. Je suis pas la seule, je ne comprends pas vraiment, vous voyez.
Rappelez-nous cette loi, ce qu'elle contient.
C'est le fait que on passe, quand on peut pas démontrer une agression sexuelle, on passe à l'atteinte sexuelle qui est condamnée pour trois fois rien en se disant que, ben, voilà. Les juristes disent c'est mieux ça que rien, un enfant peut être consentant à 11 ans. Mais attendez, 11 ans, c'est pas possible. On peut pas être consentant à 11 ans. Un enfant est un enfant. Je veux dire, on a beau être déluré, mais quand même.
Même une Lolita.
En fait, un enfant, c'est pas, il fantasme la relation avec un adulte. Mais on sait bien, tous les psys le disent, la relation avec un adulte n'a rien à voir avec ce qu'il imagine dans sa tête. Donc, ne confondons pas tout. Il faut être extrêmement rigoureux, intégrer toute la complexité de l'enfant, de l'âge, de la psychologie, des représentations. Voilà. Sinon, on mélange tout et on fait des impairs.
Marie Jotil, pour cette dernière partie de notre émission, revenons à l'Église, à cette crise sans précédent qu'elle traverse. Il y va même de son avenir, hein, très clairement. Comment voyez-vous le pape François dans cette tourmente? Bon, il y a eu ce sommet à Rome sur la protection des mineurs. Bon, certains sont repartis effectivement un peu sonnés de ce qu'ils découvraient. D'autres, bon, encore dans le déni. Comment voyez-vous cette suite?
Alors, les suites de ce sommet. D'abord, il faut être... revenons une seconde sur l'événement.
Oui.
Ce qui a peut-être le plus marqué ce sommet, c'est la présence de victimes qui n'ont pas toutes été présentes physiquement, mais qui ont témoigné. Et leur témoignage a bouleversé, je crois, tous les présents. Et les évêques, quand ils sont retournés chez eux, certains ont pris des mesures parce qu'ils ont été absolument bouleversés par le témoignage des victimes. Parce que malgré le fait que le pape François leur avait demandé à tous les évêques de toutes les conférences épiscopales du monde d'écouter des victimes, de les convoquer, de les entendre, de... voilà. Je suis pas sûre que ça a été fait jusqu'au bout, ou alors de manière un peu superficielle. Mais là, ceux qui étaient là, ils ont été obligés d'écouter. Ça faisait partie.
Oui, il y avait ces vidéos.
Ça faisait partie de ce sommet. Bon. Donc ça, c'est un point déjà important. Après, c'est vrai qu'on attendait des mesures concrètes immédiates. Pour le pape, c'est des mesures concrètes dans un deuxième temps. Mais c'est vrai qu'on les attend. Il y a une réforme de la curie qui est prévue. Il y a le droit canon qui doit être peu ou prou réformé. Mais combien, je n'en sais rien. On attend un vademecum pour les évêques pour qu'ils sachent exactement comment procéder. Parce que là aussi, on a des choses très différentes d'un pays à l'autre, même de la France à l'Italie. On n'a pas exactement les mêmes consignes.
Oui, hein. L'Italie n'est pas, un évêque italien n'est pas obligé de dénoncer à la justice civile.
Absolument. Hein, et c'est très clair. Voilà, je le montre avec le texte à l'appui. Et je crois que, voilà, il faut se rendre.
Là, on tombe des nues aussi, là, quand on lit ce texte, hein.
Ouais, merci de le dire. Ou de le rappeler. Effectivement, donc il y a des choses, et puis on attend aussi de savoir quoi faire quand il y a un évêque qui a abusé, à quelle instance faut-il le signaler. Dans les pays, il y a aussi peut-être à trouver des instances un peu intermédiaires entre le diocèse et le national. Pourquoi la conférence épiscopale ne mettrait pas en place quelque chose à ce niveau-là? Donc ça pourrait être dans le vademecum. Donc vous voyez, on attend plein de choses, mais on attend aussi, moi je pense qu'on... c'est des mesures importantes, mais ça suffit pas.
Oui, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, il faut réformer la gouvernance de l'Église.
Voilà.
Parce que dans les différents dicastères romains, on se parle très peu, sinon pas grand-chose, enfin, c'est pas au point. Il faut réformer les ministères dans l'Église. Donc, intégrer la place de la femme. La femme, elle n'a pas de rôle décisif aujourd'hui dans l'Église. Quoi qu'on en dise, on peut pas juste dire que la place de la femme, c'est important, son rôle est important, mais nous avons besoin comme femme, parce que sinon, elle quitte l'Église, toutes ces femmes. On a besoin de femmes à des postes décisionnels dans l'Église, où elles ont vraiment un rôle dans l'interprétation des textes, dans la mise en place des réformes, etc., à tous les niveaux. Parfois, je le dis un peu sur le mode humoristique, la question du sacerdoce des femmes, c'est une chose, mais c'est pas de ça que je parle d'abord, parce qu'on n'est pas prêt dans l'Église absolument à réformer ça tout de suite. Je pense que ça viendra automatiquement, mais dans quelques années,
plus tard.
Pour le moment, il n'y a pas de femmes. Donc, il faut d'abord intégrer les femmes pour qu'on ait un peu moins peur des femmes dans l'Église. Parce que je crois vraiment qu'il y a une méfiance à l'égard de la femme. Or, nous avons des femmes. Alors, parfois, on dit aussi, elles sont pas formées. M'excuse, mais les femmes aujourd'hui sont plus formées que les hommes. Souvent, dans l'Église, dans la faculté de théologie, que ça soit Strasbourg où je suis ou ailleurs, nous avons énormément de femmes. Nous avons plus de femmes que d'hommes qui se forment et qui ont des diplômes, qui ont des doctorats, alors que tous les évêques n'ont pas des doctorats. Donc, des femmes extrêmement formées qui peuvent interpréter les écritures, les textes de l'Église, etc. Et je crois que c'est extrêmement important de les intégrer dans des rôles décisionnels.
Mais qu'est-ce que ça changera au niveau des abus sexuels?
Ça changera énormément de choses, parce que d'abord, les femmes ont un autre rôle, un autre rapport aux enfants, et puis les femmes vont équilibrer, je dirais, le raisonnement. Les hommes auront moins peur des femmes, et on arrivera à un point d'équilibre, parce que finalement, nous sommes tous des baptisés. Que l'on soit clerc, évêque, pape, ce que vous voulez, ou laïc, le sacrement par excellence, c'est le baptême. Les femmes, elles sont brimées aujourd'hui dans le cadre du cléricalisme par l'éclair, au sens où il commande, on arrive à des disrelations. Et je crois que c'est cette disrelation, ce cléricalisme qui peut changer. Donc les abus de pouvoir devraient être levés par le fait d'intégrer plus de femmes.
Et qui dit abus de pouvoir dit abus sexuel. Alors, souvent c'est lié, enfin un abus sexuel est lié à un abus de pouvoir.
Un abus sexuel est lié à un abus de pouvoir, mais tous les abus de pouvoir ne sont pas des abus sexuels. Ne mélangeons pas les choses.
Entraîne un abus sexuel.
Voilà, absolument. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est voilà. Et des abus de conscience. Le pape le dit très clairement dans Amoris Laetitia, en disant on n'a pas à s'immiscer dans la conscience de l'autre. Il faut quand même que chacun se forme sa conscience. Et tout l'enjeu, c'est la formation de la conscience. Mais vous voyez bien que le rôle des femmes est à ce niveau-là. C'est-à-dire que on arrive à une relation plus juste, plus équilibrée de toutes les vocations dans l'Église. Parce que si nous sommes tous des baptisés, nous avons des rôles différents. Mais ces rôles sont complémentaires. On ne peut pas avoir d'un côté une hiérarchie complètement masculine qui détient tout le pouvoir et qui est en position de surplomb par rapport à des femmes qui, elles, n'ont malheureusement pas grand-chose à dire et sont reléguées à des fonctions qui sont importantes, mais qui sont des fonctions de catéchèse, d'accueil, une vie paroissiale, subalterne. Alors que les femmes, à ce niveau-là, doivent pouvoir jouer un rôle décisionnel.
Alors, il nous reste extrêmement peu de temps. Vous l'avez tout à l'heure effectivement évoqué. On n'est pas allé plus loin. Bon, la question du célibat, les prêtres régulièrement répondent, ça n'est pas le célibat qui, le mariage des prêtres qui, ou les prêtres mariés qui changera quelque chose. Quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je crois que pour une part, c'est vrai. Pour une part, c'est pas le célibat en tant que tel qui est la cause des abus sexuels. Bon, mais une fois qu'on a dit ça... On n'a pas tout dit. Le problème, c'est que quand le célibat est vraiment mûri, que c'est un choix réel, eh bien, c'est une sacrée chance pour l'Église. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que certains, au bout d'un certain temps, pas immédiatement, et là aussi, les abus sont souvent commis les 10 premières années après l'ordination. Vous voyez, au bout d'une dizaine d'années, ça, quelque part, il y a un vide, il y a un discernement qui n'a pas été suffisamment fait, il y a une formation psychologique qui n'a pas été assurée, etc., etc. Et puis, on arrive à une transgression, puis une deuxième, puis une troisième, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on s'y retrouve plus. On s'attache à une femme, on a le cafard, on est seul. Alors, un enfant et un adulte, ce n'est pas la même chose. Mais un adulte peut aussi être abusé, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est en situation de fragilité et qu'on se confie à un prêtre dans le cadre d'une relation spirituelle. Mais ça résume pas non plus tous les cas. Il y a effectivement des prêtres qui s'amourachent d'une femme, et puis réciproquement. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est une sacrée question. Et je pense qu'il faut traiter cette question, mais la traiter, comme je l'ai dit à l'instant, en réfléchissant de nouveau sur la question des ministères dans l'Église. C'est-à-dire tous les ministères. Le pape a lancé un petit peu un appel en disant que pour le synode de l'Amazonie, on allait réfléchir à cette question parce qu'il y avait plus de prêtres. Chez nous non plus, et on est en manque de prêtres. Donc je crois que c'est vraiment le moment favorable, le kairos, pour réfléchir à cette question.
On est à l'aube d'une grande réforme, Marie Jotiel.
Eh bien écoutez, je l'espère. Je l'espère et peut-être que c'est un appel à aller dans ce sens. Alors ça se fera pas d'ici un an, deux ans, trois ans, dix ans. Mais c'est un mouvement qu'il s'agit de lancer.
Je vous remercie Marie Jotiel. Je rappelle le titre de votre livre, une somme, une grosse somme et vraiment indispensable si on veut comprendre effectivement la question qui traverse actuellement l'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs et c'est publié aux éditions Bayard. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Olivier et Raoul vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.